c'est le retour de Pascal Mallet dans nos studios d'Antenne Doc. Pascal, passionné d'histoire et de généalogie, qui revient donc dans nos studios après nous avoir présenté deux ouvrages, La Grande Guerre, les Poilus de Figeac et Georges Mallet, un passant du XXe siècle. Alors, ouvrage d'ailleurs en quatre tomes, dont les deux premiers sont sortis. Alors Pascal vient nous parler aujourd'hui de son dernier ouvrage, donc sorti au printemps dernier, Pierre Dac, un héros de 14-18, point d'interrogation. Attention, j'y tiens au point d'interrogation. Un livre qui est le fruit d'une enquête que vous avez menée sur Pierre Dac et sur la véracité ou non de son statut de héros de la guerre 14-18. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors donc vous êtes attaqué, j'ai envie de dire, à un mythe, à une légende presque, hein, à savoir Pierre Dac. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Pierre Dac? Parce que les plus jeunes, à mon avis, ne savent pas qui est Pierre Dac, enfin qui était Pierre Dac.
Oui, alors Pierre Dac était le roi des loufoques, comme il se présente à lui-même. Et effectivement, il avait un style d'humour très particulier. L'humour loufoque, un terme qu'il a pas créé, mais à qui il a donné ses lettres de noblesse. Donc on va dire c'est de l'absurde, c'est un petit peu de l'humour anglais. Son père était boucher, donc il y avait ce dialecte des bouchers à Paris et principalement à la Villette, qui était le louchébem, où on inversait donc les syllabes pour créer un mot. Louchébem veut dire boucher avec une petite transformation. Loufox, ça veut dire fou. Voilà. Et effectivement, Pierre Dac s'est servi de ça pour devenir célèbre à partir des années 20. Il est devenu chansonnier. Et puis, dans les années en 1936, par là, il a créé Le Samoil, une revue loufoque, mais dans laquelle également il faisait de l'humour excessivement agressif contre Hitler, Goebbels, Göring, ce qui lui a valu évidemment de ne pas être aimé de l'autre côté du Rhin. Mais on était à l'époque, il faut se rappeler qu'on était bien protégé par la ligne Maginot, donc on pouvait, enfin, je fais de l'humour là aussi, on pouvait titiller nos voisins sans rien risquer. Il faut savoir que ça, je l'ai appris en faisant mes recherches. Pierre Dac était juif, donc ça rajoute un peu dans le courage qu'il pouvait avoir, sachant comment les juifs étaient traités de l'autre côté du Rhin. Il s'appelait André Isaac à sa naissance. Il est devenu Pierre Dac dans les années 20 seulement parce que ça faisait plus. Enfin, c'était plus vendeur, on va dire. Et donc, quand les Allemands sont arrivés en France, évidemment, il était sur la liste noire des gens à arrêter. Il s'est enfui rapidement en zone libre, où il a fait partie d'un réseau de résistance. Et puis ensuite, il est passé à Londres, puisque à partir du 11 novembre ou 15 novembre 1942, la zone libre a été à son tour envahie, et évidemment, il n'était plus en sécurité. Donc il est passé à Londres, et il est devenu très connu à ce moment-là. Enfin, il était très connu, mais il a été connu avec sous un nouvel angle, en devenant une des voix de Radio Londres. Les Français parlent au français. Voilà. Donc, c'est un. En tout cas, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est comporté comme peu de Français l'ont fait. Et ça, je lui rends hommage. Le problème pour moi...
Ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale.
Non, ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est la Première, où là... Alors, je me suis intéressé à lui parce que j'ai...
Oui, pourquoi ?
Alors...
Comment ?
Oui, voilà. J'ai découvert...
Comment ça a commencé ?
J'ai dit... Alors, je ne sais pas si on se rappelle que j'avais fait des recherches sur la sépulture de mon grand-père, il y a quelque temps, qui avait été tué en novembre 14, et qui était du 160e régiment d'infanterie. Et j'ai appris que Pierre Dac était lui aussi au 160e RI. Donc je me suis demandé, tiens, est-ce qu'ils ont pu se croiser ? Ça aurait été amusant. Donc je suis allé voir un petit peu ce que disait la page consacrée à Pierre Dac sur Wikipédia. Et là, j'ai découvert que non seulement il s'était bien comporté pendant la guerre de 39-45, mais également qu'il avait été un héros de la guerre de 14, avec 6 citations, donc une croix de guerre, avec une palme, des étoiles vermeilles, enfin, voilà, quand même des belles choses, mais dont on disait rien. Il y avait seulement 5-6 lignes. Il avait été blessé 2 fois. Voilà. Donc je suis allé voir comme on fait dans les recherches quand on s'y connaît un petit peu. Je suis allé voir sa fiche matricule qui est disponible sur le site des archives de Paris. Et là, j'ai trouvé complètement autre chose. C'est-à-dire que vraiment... donc j'ai pensé à un homonyme. J'ai approfondi mes recherches et j'ai trouvé des articles de journaux de l'époque qui corroboraient complètement l'historique de la fiche matricule, à savoir une blessure le 23 juin 1914, soit cinq semaines avant la déclaration de guerre. Et pour une raison bizarre, enfin c'était suffisamment bizarre pour que ça se retrouve dans la presse, c'est que le caporal Isaac s'était appuyé le bras sur le canon de son fusil chargé et le coup était parti. Bon, moi, évidemment...
Ça vous titille.
Oui, ça me titille parce que c'est... C'est guère possible sans y mettre du sien, quoi. Donc j'ai fait des recherches sur le fusil Lebel, j'ai quand même un peu fouillé la chose. Bon, c'est à 99%, c'est un acte volontaire. On laisse le 1% de doute en étant gentil, quoi, pour un accident. Et la raison. Donc, la guerre n'était pas déclarée. C'était même une semaine avant l'assassinat de Sarajevo. Donc, la situation était tendue, mais ce qui allait déclencher la guerre n'était pas encore arrivé. Donc, l'idée qu'il ait fait ça pour éviter la guerre, moi, me semble pas pertinente. Par contre, et c'est lui qui donne... La solution, je pense, c'est dans son interview par Jacques Chancel dans une radioscopie en 69, où il dit que sa première chanson, il l'avait écrite au régiment pour se moquer de son colonel, que ça lui avait valu 60 jours de tôle, comme il dit, 60 jours que j'ai pas fait, dit-il, car j'ai eu le bras brisé le lendemain. Donc ça me semble être la seule raison, un peu bête. Hein,
volontaire, quoi.
Oui, un acte volontaire pour éviter une punition qui d'ailleurs n'est pas avérée. J'ai pas retrouvé la trace dans les archives de la justice militaire, donc c'est un peu curieux, parce qu'on trouve des choses similaires. Il était caporal en plus de ça. Apparemment, les caporaux ne faisaient pas des peines de prison. Mais c'est la seule raison. Je pense qu'il pensait pas se faire aussi mal. Il s'est pété le
radius. Il s'est quand même bien blessé.
Il s'est cassé le radius de manière très, très sérieuse. Voilà. Et le reste de la guerre, il l'a faite dans les hôpitaux.
Dans les hôpitaux. Et enfin, vous avez retrouvé des traces.
Hein. Ah bah bien sûr, disons que la fiche matricule déjà détaille ça de manière très très précise. Mm-hmm. Il y a des archives à Limoges, archives hospitalières militaires, où j'ai trouvé traces de André Isaac et qui recroise exactement ce que dit la fiche matricule en mettant plusieurs fois. Accident antérieur à la guerre, donc c'est tout à fait, et c'est cet accident qui le suit pendant toute la guerre. Mmh. Pendant toute la guerre, à part 6 mois dans les services auxiliaires, donc plus ou moins dans les bureaux, il a été dans les hôpitaux ou en convalescence, très certainement dans sa famille, puisque c'était à Paris. Mmh. Donc voilà, on est très très loin du héros. De 14, on est plutôt sur quelqu'un qui s'est automutilé, quelqu'un qui, moi j'ai pas peur de dire qu'il a été plutôt planqué que héros. Il n'a rien fait à aucun moment pour repartir près de ses copains. Est-ce qu'il l'aurait pu d'ailleurs? Je sais pas, il était quand même sérieusement blessé. Et puis, sa dernière hospitalisation se termine une semaine avant l'armistice et on n'en parle plus après. Donc voilà, quoi. C'est le mythe du héros a pris l'eau.
Hitler, débine-toi, bien vite. Hitler, débine-toi, crois-moi. Pourquoi te cramponner? Le Reich est bien malade. Maintenant ça te tombe dessus. C'est toi qui l'as voulu. Hitler, débine-toi, bien vite. Hitler, débine-toi, crois-moi.
Et donc lui, Pierre Dac, se disait médaillé de cette guerre.
Oui.
Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a effectivement eu des médailles?
Non. Et si vous voulez, dans ces cas-là, déjà sur la fiche matricule, il y a une petite partie réservée aux blessures, citations, décorations, qui est absolument vierge, alors que lui parlait, y compris sur des papiers officiels, et entre autres, j'ai retrouvé dans son dossier de résistant sa fiche d'adhésion à la résistance à Londres, où il dit d'ailleurs, bon, un coup c'est 4 citations, un autre c'est 5, enfin bon, bref, il s'en mêle un petit peu les pinceaux dans un genre de délire quand même. Et non, il n'a pas pu à aucun moment être ni blessé. On parle d'une deuxième blessure parce qu'il serait reparti au front après la première pour venger son frère. C'est vraiment un... Je ne sais pas comment dire, mais c'est une collection de mensonges. Mais vraiment, quoi. On tombe sur un mythomane. Quoi. Mmh. Et il n'y a pas que des mensonges là-dessus. Il y a des mensonges sur sa taille, il y a des mensonges sur son niveau d'études,
Alors, notamment, il y a mensonge aussi quand même sur la longueur de la réduction de son bras suite à sa blessure.
Ça vient de son biographe, Jacques Pessis, qui maintenant défend bec et ongle cette version du héros, contre vent et marée, en amenant là aussi un lot d'erreurs historiques. C'est assez hallucinant. Et je pense... Alors, je n'ai pas trouvé la trace des 12 cm. Ce que j'ai trouvé sur la fiche matricule, c'est qu'on parle d'1,5 cm. Et c'est vrai que c'est assez mal écrit. Et demi, c'est pas écrit 1,5, mais c'est écrit 1 et 1,5. Donc voilà, entre le 1 et le 2 de 1,5, on peut faire 12. Mais c'est une information qu'on trouve partout maintenant. Enfin, les gens ne vérifient absolument pas, et des gens vraiment connus, hein, comme des historiens, Pascal Horry, entre autres, quand même, qui ne s'intéresse pas à la vérité. Enfin, je trouve ça un petit peu grave.
Oui, c'est ça. Mensonge, affabulation, on ne sait plus très bien.
Oui, mythomanie. Et donc, il portait pour... une fois qu'il disait qu'il était décoré, il portait, c'est
oui, c'est réellement... ça, parce qu'on l'a vu quand même... je me rappelle avoir vu des photos.
Oui. Bah,
ses médailles, ses décorations, quoi.
Absolument. Donc, on retrouve la médaille, la croix de guerre avec une palme, et on voit trois étoiles parce que le col sur la photo couvre un petit peu. On retrouve la médaille de Verdun, et on retrouve la médaille des blessés de guerre, qu'il a dû acheter parce qu'on peut acheter, hein, c'est pas interdit, on peut même les porter chez soi si on veut se faire plaisir. Mais la photo la plus représentative, c'est une carte postale qu'il signait au dos à la fin de ses spectacles, et voilà, il porte, il a une veste militaire et il porte fièrement. Alors, il a même, d'ailleurs, croisé une fois le général de Gaulle dans les studios de la BBC, et je suppose qu'il arborait fièrement
ses décorations.
Ses décorations. Enfin, on est dans le...
Quel accueil votre enquête a eu auprès, justement, du biographe de Pierre Dac?
Alors, disons qu'il ne l'a pas vu parce que je ne lui ai pas envoyé. Je l'ai eu au téléphone et il m'a dit, en tout cas au téléphone, ne comptez pas sur moi pour dire que Pierre Dac a menti. Ça, je compte pas sur lui, c'est sûr. Et effectivement, après mon coup de fil, il a quand même continué à la radio. Alors, c'était plus deux blessures, c'était trois. Et puis, c'est raconté un petit peu de manière humoristique, on va dire, puisque Pierre Dac était un humoriste. Donc, on a l'impression que ses blessures et tout ça, c'est de l'humour. Mais c'est oublié quand même tous ceux qui les ont vraiment reçus, qui ont vraiment été handicapés à vie, qui sont morts. Et je trouve ça scandaleux.
Oui.
Je trouve ça scandaleux.
Donc, dans votre ouvrage, vous parlez d'un fait que, par exemple, Pierre Dac aurait été nettoyeur.
Oui.
C'est ça? Oui. Nettoyeur de tranchées.
Nettoyeur de tranchées, oui. Alors, ça, c'est dans le...
Ça, c'est quand même...
Oui, mais alors, ça fait partie des délires de son biographe. Donc, Pierre Dac est mort en 1975. À ce moment-là, Jacques Pessis était son légataire universel, puisque Pierre Dac était marié, mais il n'avait pas d'enfant. Et à l'époque, c'était encore la femme de Pierre Dac qui était son ayant droit. Et à la mort de celle-ci, c'est Jacques Pessis qui est devenu ayant droit. Et donc, tout l'œuvre de Pierre Dac... il l'a republié, évidemment, pour toucher des royalties. Donc en 77, Jacques Pessis sort un tout petit livre avec beaucoup de textes de Pierre Dac, mais aussi une petite introduction où il parle de la guerre de 14, donc blessé, datata. Et pour venger la mort de son... Donc blessé une première fois, 12 cm en moins à son bras gauche... on allait lui dire de rentrer chez lui, mais il apprend la mort au combat de son frère bien-aimé, et là son sang ne fait qu'un tour et il demande à retourner au front. On imagine 12 cm ce qu'il pouvait faire, mais en plus de ça, il en a tellement contre les contre les Boches, hein, excusez-moi, c'est le terme.
À l'époque, hein, c'était ça, hein,
c'est le terme de l'époque, qui était d'ailleurs pas tellement insultant. Et là, eh ben, il veut en tuer le plus possible et il devient nettoyeur de tranchées. Mmh. Mais évidemment, ce n'est pas Pierre Dac qui dit ça, c'est son biographe. Bon, nettoyeur de tranchées, évidemment, ceux qui ne savent pas, on imagine qu'on va remettre en ordre et...
Non. Alors, on fait le ménage, mais d'une autre façon.
Mais on fait le ménage des hommes et de toutes les manières. C'est-à-dire que les nettoyeurs de tranchées intervenaient après le passage des vagues d'assaut, quand ils ne s'arrêtaient pas dans une tranchée et qu'il restait éventuellement des Allemands qui auraient pu leur tirer dans le dos. Et ben, ces Allemands-là, il fallait les éliminer. Il y en a quelques-uns qu'on faisait prisonniers, mais même quand... qui criaient « camarades, camarades », on les égouillait et de toutes les manières. C'était de l'assassinat, quoi. C'était plus la guerre. D'ailleurs, il y en a qui ont écrit leur mémoire et qui ne voulaient plus assassiner, justement. Enfin, ça se faisait au coutelas, à coups de bêche, à coups de massue. Mmh. C'est horrible. Oui. Donc, celui qui a écrit ça ne sait pas. Absolument pas, il a voulu faire mousser. Enfin, c'est franchement...
Oui, c'est ça. Bien, et bien Pascal, merci beaucoup.
Oui.
Donc, je rappelle votre enquête, votre ouvrage enquête, je vais y arriver. Pierre Dac, un héros de 14-18, point d'interrogation. Hein,
oui,
on y tient.
J'aurais pu en mettre plusieurs. Oui.
Hein, voilà. Donc, aux éditions... Caléato, qui est votre maison d'édition,
voilà.
Puisque vous auto-éditez.
Voilà, hein, tout à fait.
Voilà.
Et en vente dans les meilleures...
dans les meilleures librairies
de Figeac.
De Figeac, voilà. Hein.
Alors, si je peux ajouter
un tout petit mot,
ce serait pour faire une petite publicité pour le tome 3... du pass
de votre grand-père
qui s'intitule Passant du XXe siècle, puisqu'il il a vécu pendant tout le XXe siècle. Donc le tome 3 qui raconte son évasion d'Allemagne, son
D'accord.
passage en zone libre, tout ça. Enfin, c'est très encore une fois très très intéressant.
Oui, c'est très intéressant. Moi, j'ai lu le tome 1 et franchement, c'est très très intéressant.
Voilà.
Vraiment très intéressant.
Donc il sera dans les librairies au mois de janvier.
D'accord. Après les fêtes.
Après les fêtes.
Bien. Eh bien, Pascal, merci. Et puis, vous travaillez sur quelque chose en ce moment, un nouveau projet
Oui, tout à fait. J'ai, comme j'avais fait raconter un peu la guerre de 14 au travers des gens qui sont sur notre monument aux morts ici, je me lance dans la même chose pour la guerre de 39-45.
D'accord.
Avec plus de difficultés, parce qu'il y a très peu d'archives en ligne.
Oui, parce qu'on peut accéder aux archives.
Oui.
Parce que maintenant, on peut accéder à celle de la guerre 14-18.
Oui, oui, oui.
Mais 39-45, oui, on peut.
Alors, 39-45, on peut... on peut, pour les gens qui sont morts, évidemment, puisque là, il y a le délai est correct. Et donc, il faut aller, par contre, sur place, à Caen, entre autres.
Ah oui, là, il faut se déplacer.
Pour
là.
Tout ce qui est déportation... Mm-hmm. Militaires tués, victimes civiles, à Vincennes pour les dossiers des résistants, et il y en avait beaucoup. C'est vrai que le coup de filet a été fait au hasard, mais ils ont pris beaucoup de résistants, parce qu'il y en avait beaucoup à Figeac. Donc voilà, et puis j'en profite pour faire un appel aux descendants de me contacter.
D'accord.
Parce que j'aimerais bien avoir des informations personnelles. Voilà, je suis en train là, de collecter. Là.
D'accord. Bien, donc l'appel est lancé.
C'est gentil.
Donc vous pouvez nous contacter, hein, bien sûr, Antenne Doc Figeac, voilà, si cela vous intéresse. Pas de souci, nous transmettrons.
C'est gentil, merci.
Merci Pascal, au revoir.
Merci Armin.
Lorsque sans parti pris, on établit le bilan de l'humanité d'aujourd'hui, devient limpide comme un clair de lune élu, mineux comme un clair de notaire. C'est pas si tôt que les hommes seront frères, et que malheureusement au contraire, nous vivons à présent sous le signe affligeant de la haine et de ses affluents. C'est le brisé, c'est le brisé.
tout partout tout, tout se passe par en dessous, de mémoire de grinche, jamais dans les yeux, en pitant mon regard haineux. Ah, y'en a dit, y'en a dit, de certaines qui, sous les esprits qui, perdent sans la fraternité, et ainsi, c'est un twist possible. Hélas, maintenant l'altruisme est foutu et c'est couru, y'a pas plus d'altruisme que de beurre urbu, y'a plus que de la haine, si bien que dans le pays, bien tout le monde sera à mais là où la chose se complique et bien tragique, c'est que la haine vient pour chacun une espèce de besoin que d'authentiques sagouins entretiennent de près comme de loin. Il y a de la haine de toutes les nuances, de la haine sans l'air une circonstance. Il y a de la haine de bon ton pour les haineux de salon et la grosse haine de confection. Mais de toutes les façons, il y a trop de haine, mais il y a trop de haine et il y a trop d'haineux. Ça tourne au scabreux et au scandaleux, car certains haineux en arrivent même entre eux à se traiter tête haineux. C'est un cercle vicieux, car quand un haineux est un autre haineux, celui qui est aussi par l'autre haï, de même que celui qui est haï, haïssant celui dont il est haï. Chaque haï donc est un haï qui est, ce qui fait qu'en fin de compte on peut voir comme ça, l'haï ici est l'haï.
Haine par-ci, haine par-là.